déclinerons ensemble ce mot « temps », à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Bienvenue dans l'air du temps. Alors tout d'abord, bien sûr, je tiens à vous souhaiter une très très bonne journée avec tout plein de bonnes choses. Alors, aujourd'hui, nous fêtons les Rolandes. Bonne fête à elles. Nous fêtons les Rolandes, mais pas que, car c'est aussi la Saint-Servais. Et chacun sait ce que cela veut dire. C'est tout simplement le dernier saint de glace. Alors normalement, nous devrions connaître à présent un temps plus doux, ce qui devrait réjouir certains. Mais finalement, peu importe, puisque le soleil, vous l'avez dans le cœur. Et souvenez-vous de cette chanson de Céline Dion qui disait « Tant que je vivrai, jamais je n'oublierai l'émerveillement de ce matin de mai. Tout au fond de moi, je sais que j'aurai toujours du soleil au cœur. Alors émerveillez-vous donc et appréciez ce matin de mai, il y a le soleil. Et merci d'être sur Radio Plus pour le passer agréablement ce matin. Et justement, en avant l'amour.
Oh là tes yeux du soleil et nous deux, la chance que l'on a, c'est d'être toi et moi. Puisqu'on n'a rien à faire et qu'on est au mois de mai, qu'on ne peut jamais savoir de quoi demain peut être fait, allons l'amour, allons l'amour, allons l'amour et rendez-vous demain. Encore ici, je t'aime. Puisque ça t'accroche et qu'à moi ça me plaît, et qu'on a l'impression que ça peut durer à tout jamais. Allons l'amour, allons l'amour, allons l'amour malgré le temps demain. Retrouvons-nous quand même. Ce soir, il fait froid, il fait noir. Regarde, quand il pleut, rentrez les amoureux. J'aime ce toit de chambre, accueillir nos deux corps. J'aime entendre sous la pluie danser les désirs de la vie. Allons l'amour, allons l'amour, allons l'amour. Fermons les yeux tous deux, jusqu'à demain on rêve. Pendant que l'on passe notre temps à aimer, dans la vie rien de fâcheux ne peut vraiment nous arriver. Allons l'amour, allons l'amour, allons l'amour. Le feu est vert là-bas, un beau soleil se lève.
Rivers sur Radio Plus. Et oui, souvenez-vous, c'était sa période avec les chats sauvages. Alors, dans notre rubrique Saletant sur la planète, en l'absence de Jean-Louis Wattet qui a débuté la semaine des abeilles sauvages, eh bien, nous parlerons des effets de la disparition des insectes pollinisateurs et de beaucoup d'espèces, les oiseaux par exemple. Et puis, Bertrand Trinel, le président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, ne sera pas lui non plus avec nous, puisque ce matin, il reçoit au jardin de l'Ermite à Averskerk un groupe d'enfants pour justement leur parler jardinage. Et puis, alors c'est aux amateurs de la bière que nous nous adresserons dans notre dernière rubrique. En effet, le club Rotary de Neuilly-Mines, club Soleil de l'Artois, organise ce samedi 18 mai à la salle Madès France, rue du Congo à Neuilly-Mines, le salon Bières en Folie, avec des brasseurs, des artisans et beaucoup de surprises. La bière, produit régional par excellence, a toujours été associée à la convivialité. Cet engouement autour de la bière des Hauts-de-France se justifie aussi par sa qualité. Et justement, Charles Choteau, expert, nous en dira plus tout à l'heure. Et nous consommons ses paroles, bien sûr, sans modération.
Bonne journée, bonne semaine et bonne éternité. Bon déroulement, bon séjour et dans les âmes et les peines. Au ressourcement, merci pour tout. Bonne soirée, bonne semaine et bonne éternité. Merci pour tout. Merci pour tout, bonne journée, bonne semaine et bonne éternité. Bon détour et dans les âmes et les peines, un ressourcement. Merci pour tout. Quiero estar siempre caliente, siempre. Suis-je aussi chargé que ne l'est l'atmosphère? Suis-je aussi salin que ne l'est l'eau de mer? Suis-je aussi lointain que celui qui veut plaire? Suis-je aussi masqué que Don Diego volontaire? Et plus élégant que celui qui ne sait plus se taire? Chargé que ne l'est l'atmosphère, suis-je aussi salin que ne l'est l'eau de mer, suis-je aussi lointain que celui qui veut plaire, suis-je aussi masqué que Don Diego volontaire, et plus élégant. Quiero estar siempre callejeando, siempre.
Le groupe Tarmac sur Radio Plus, et en effet, bonne journée à chacun d'entre vous. Alors notre enquête dans l'air du temps, parlons encore de notre bien-être. Une étude canadienne a montré que les personnes qui ne consultent pas leur email, qui ne consultent leur email que 3 fois par jour, sont beaucoup moins stressées que les autres et se sentent mieux au bout de 2 semaines. D'ailleurs, 65% des gens estiment que faire une détox numérique, comme on appelle, de temps en temps est une bonne idée pour rester en bonne santé psychique. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Seuls 28% y parviennent. Lavoine sur Radio Plus. Alors, Jean-Louis Ouattet n'est pas avec nous aujourd'hui puisque avec son association L'Étrême Nature, il s'occupe cette semaine des abeilles sauvages avec des animations scolaires à L'Étrême, à Sailly-sur-la-Lys et à Fleurbaix. Et je vous rappelle à ce propos que Bernard Fessière, spécialiste national des abeilles et chargé de recherche à l'INRA d'Avignon, donnera une conférence le vendredi 17 mai à 19h dans l'espace espace culturel Jean de la Fontaine. Alors le titre de la conférence, c'est Abeilles, pollinisation, agriculture et biodiversité. C'est une conférence qui est ouverte à tous et gratuite pour tous. Ce vendredi donc à l'Étrem.
La planète.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Et en effet, nous devons tous faire quelque chose pour la sauvegarde de la biodiversité. Alors si vous avez lu la presse cette semaine, vous avez eu confirmation que ce lundi 6 mai, le lundi 6 mai, 150 experts de l'ONU ont publié un document de plus de 1800 pages très alarmant. Alors notre maison brûle et nous regardons ailleurs, avait lancé Jacques Chirac lors du sommet mondial de la Terre de Johannesburg en 2002, pointant ainsi la menace du réchauffement climatique. Il faudrait aujourd'hui ajouter la vie sauvage s'effondre et nous fermons les yeux. Alors il ne faut pas se dire que ça concerne 1 million d'espèces et pas les autres. Non seulement les écosystèmes, c'est-à-dire toutes les espèces vues à travers le prisme des innombrables relations qui les unissent, sont attaquées de toutes parts par la frénésie productiviste et consumériste humaine qui dépasse leur capacité de résilience, mais en vertu même de toutes ces relations, l'écroulement d'une espèce ou d'un écosystème local entraîne le reste dans sa chute. Alors il faut quand même savoir que la France fait partie des 10 pays les plus menacés. Alors pourquoi ? Eh bien en métropole, après des millénaires de déforestation et 70 ans d'urbanisation massive et de passage de l'agriculture à l'agro-industrie, la biodiversité est en ruine et les pertes s'accélèrent encore. Nous avons des paysages céréaliers sans refuge pour la vie sauvage, inondés de pesticides où les insectes bases de la chaîne alimentaire ne peuvent survivre. Ces milieux ultra simplifiés n'accueillent qu'une biodiversité dérisoire. Les fleuves sont canalisés, nos villes s'étendent avec leurs goudrons, gazon, béton et leurs cubes de verre. Même le moineau domestique en disparaît. Entre elles, un enchevêtrement d'autoroutes, de lignes, THT, etc., qui coupent la circulation des espèces et les réduisent à des noyaux isolés qui finissent par s'effondrer. Les paysages agricoles accueillants pour la biodiversité, comme le bocage ou les prairies humides, disparaissent. Alors, ils disparaissent soit au profit de la ville, soit de boisements, de production qui ressemblent à des champs de bois, soit de paysages agro-industriels. Alors, tout ça est commun à toute l'Europe et même au-delà. On y retrouve partout une biodiversité dans le même état et ce, pour les mêmes raisons. Donc, ça devient vraiment très, très grave.
Écoutez-moi, le monde égorge à son rythme d'autres que moi en feront bien quelques rimes de vous à moi, puisque la terre est morose, permettez-moi. De ce chaton, de sa pelote de laine, de la chanson bonne et douce de Verlaine, des angelots au fronton des cathédrales du Père Hugo, au ventre des misérables de ces secondes qui n'apportent pas grand chose à notre monde que la senteur d'une rose. Écoutez-moi, que moi en feront bien quelques rimes de vous à moi. Puisque la terre est morose, permettez-moi de vous parler d'autre chose, du papillon qui se brûle et que l'on sauve de ce rayon qui fait château mon alcôve, de ses prénoms qu'on grave sur un platane comme un blason. Armelle, Clément ou Jeanne, des dieux déchus, pour cause d'incompétence, d'amants reçus, avec le prix d'excellence. Écoutez-moi, le monde égorge à son rythme d'autres que moi. En feront bien quelques rimes de vous à moi. Puisque la terre est morose, permettez-moi de vous parler d'autre chose, d'un adagio de Beethoven qui me drogue, d'un blanc corbeau sur l'épaule de Van Gogh, d'un soleil bleu suspendu sur les calanques, sauve qui peut. Cette minute où l'on tire sa révérence en criant zut, je verrai plus le tour de France. Écoutez-moi, le monde égorge à son rythme d'autres que moi.
C'était Henri Tachant sur Radio Plus. Et alors, en 1965, entre Noël et le jour de l'an, la télévision française diffuse un entretien intimiste réalisé par Claude Santelli en compagnie de l'acteur Michel Simon. Plutôt misanthrope et connu pour vivre en ermite, entouré de ses animaux, l'acteur a tout de même accepté de recevoir le réalisateur chez lui dans sa maison de Noisy-le-Grand. Et alors il dit, alors qu'en cette période festive on aurait pu s'attendre à un dialogue léger et optimiste, eh bien les spectateurs découvrent un homme profond, inquiet de l'évolution du monde industriel et de ses conséquences nocives sur la nature. Loin d'être hermétique à la société, le comédien discret dévoile ici un sens aiguisé de l'observation qui le mène déjà à un constat sans appel, celui de la fin proche des animaux et par voie de conséquence de la nature et de l'homme. En termes crus et sensibles, ce Cassandre délivre un message quasi prophétique sur l'avenir de l'humanité. Il dit « La prolifération de l'être humain, c'est pire que celle du rat. C'est effroyable. Les bêtes sont merveilleuses car elles sont en contact direct avec la nature. Ce qui aurait pu sauver l'humanité, ça aurait pu être la femme parce qu'elle est encore en contact avec la nature. Elle échappe aux lois, aux imbécilités émises par les anormaux. Elle est encore en contact avec la nature. » Oui, mais elle n'a pas le droit au chapitre. Et alors, donc, Claude Santelli interroge cet oiseau de mauvais augure. Il lui dit, et les animaux alors? Et pour l'artiste, il lui répond que tout est malheureusement déjà joué. Les animaux vont disparaître, il n'en restera pas bientôt. il n'en restera plus. En Afrique, c'est l'hécatombe permanente. Alors il dit, Michel Simon, quand je suis venu ici, j'avais une trentaine de nids d'hirondelles. L'année passée, j'ai eu 2 nids d'hirondelles et pour la première fois, j'ai ramassé une hirondelle qui était tombée de son nid, qui était si pauvrement alimentée. Eh oui, je trouve que vraiment c'était en 1965 quand même.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Alors justement, Bertrand Trinel n'est pas avec nous aujourd'hui non plus, puisque avec lui et son association hein, des paysages des jardins des hommes, eh bien ils reçoivent aujourd'hui une école au jardin de l'ermite. Alors c'est quand même formidable de recevoir des écoles, car on a espoir que ce sont nos enfants et petits-enfants qui nous remettront dans le droit chemin, si je peux dire. Peut-être tout simplement pour une question de survie. Et en parlant de ces enfants, on peut tenir à nouveau citer Michel Simon qui disait « La science chimique qui assassine la terre, qui assassine l'oiseau, qui tue toute vie, qui assassine l'homme. Grâce au progrès de la science chimique nous assassine, on s'en apercevra peut-être trop tard. Grâce à cela, il n'y a plus d'oiseaux, disait-il. Ce parc, quand je suis arrivé en 1933, c'était merveilleux. Le printemps, c'était une orgie de chants d'oiseaux. C'était quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Je ramasse chaque printemps des oiseaux morts tombés du nid ou des oiseaux adultes qui ont mangé des insectes empoisonnés et qui en meurent.
Les yeux grands ouverts sur le festin géant du monde. Prêt à tout croquer, petit homme. Jamais rassasié, avide de la moindre seconde. En auras-tu assez, petit homme? N'oublie jamais, cependant, rien ne t'appartient, petit homme. Tout était là, bien avant ton arrivée, petit homme, petit homme. Tes plus hauts sommets jusqu'aux abysses les plus profonds. Tu veux tout goûter, petit homme. Qui creusera les puits, qui lancera plus loin les sondes. Pétroleum ou uranium. Ne perds pas de vue, cependant, ce qui fait le curé qu'est l'homme. Où est le plus important? Qu'est-ce qui fait les grands hommes, petit homme? Dans ton palais, doucement, la rumeur gronde. Elle dit, et après, petit homme, t'es bien installé entre frigo et micro-ondes. Et tout est parfait, en somme. N'oublie jamais, cependant, rien ne t'appartient. Petit homme, tout était là bien avant ton arrivée, petit homme. On veut des arbres, des bestioles pour nos petits bons hommes, des poissons-chats, des lucioles et pas qu'au muséum, petit homme.
Antoine sur Radio Plus. Alors, la biodiversité globalement est perçue comme un truc mignon mais superflu. Plus d'abeilles ni de pandas, c'est bien triste pour les passéistes. Mais vive l'innovation et ma tablette 5G, n'est-ce pas? Bon, alors après tous ces propos, non pas pessimistes comme pourraient les qualifier certains, mais on va dire réalistes, on pense tenir un petit peu à notre plaisir. La bière est un de nos produits régionaux par excellence, avec une palette très riche et très complète, et aussi un de nos meilleurs produits issus du savoir-faire de nos nombreux brasseurs. Alors précisons quand même que 27 bières brassées dans les Hauts-de-France ont été récompensées par le jury du concours général agricole organisé dans le cadre du Salon de l'agriculture et que 7 d'entre elles ont obtenu la médaille d'or. Et puis, la bière est à notre image toujours associée à la convivialité, ne cessant d'évoluer, elle est devenue noble et depuis 5 ans, eh bien, c'est l'explosion et des dizaines de micro-brasseries ont vu le jour sur tout le territoire des Hauts-de-France. Charles Choteau, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors, de par votre profession, vous êtes un grand spécialiste de la bière, de toutes les bières, ces bières qui seront en folie ce samedi 18 à Neuilly-les-Mines.
Effectivement. Donc, nous faisons une exposition bière avec de petits brasseurs régionaux et qui ont des recettes intéressantes avec des bières qui ne sont pas encore bien connues et qui font connaître aux de cette manifestation.
Alors, ça se passe où, Charles? Ça se passe où? À Neuilly-les-Mines?
À Neuilly-les-Mines, rue du Congo, dans la salle Mendes-Soin.
Voilà, tout à fait. Alors, Charles Choteau, la bière, c'est une boisson ancestrale qui connaît l'engouement de beaucoup de Français et de beaucoup de Nordistes, mais aussi une boisson issue de traditions locales et inscrite à ce titre au patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France, aux côtés du vin, des spiritueux et des cidres. Et à cette exposition, bien entendu, on pourra déguster, on pourra découvrir, mais on pourra aussi se cultiver, car vous avez voulu créer un pont entre le monde de la bière, la culture, le patrimoine, et je suppose que la gastronomie aura aussi sa place, car la bière est souvent utilisée en cuisine.
Nous faisons ça pour la première fois cette exposition, et on n'a pas fait la gastronomie accompagnant la bière qui sera exposée, parce que bon, on ne peut pas tout faire, mais effectivement, beaucoup la gastronomie beaucoup la bière maintenant, parce que ça donne, la bière est moins astringente que le vin, et ça arrondit le nez, et faire des moules à la bière, par exemple, c'est délicieux. Mais traditionnellement, on l'a fait au vin blanc. Mais il faut essayer, par exemple, avec de la bière, c'est beaucoup plus rond, c'est plus agréable. Donc, effectivement, la gastronomie à la bière, c'est l'être de noblesse. Et beaucoup de restaurateurs innovent en servant des plats, même avec de la bière, pour remplacer un peu le vin qui, effectivement, devient très, très cher au restaurant. Donc, la bière remplace un peu. Il y a beaucoup d'accords, mais fromage également. Tout peut se sortir avec la bière.
Alors, point de vue culture, vous avez prévu des modèles réduits. Des modèles réduits de quoi, Charles?
Alors, les modèles réduits, ce sont tous des petits camions de brasserie. En France, on n'en trouve pas beaucoup, mais en Allemagne, il y a une profusion de petits camions de brasserie. Et ça peut intéresser les amateurs. Les amateurs de bière sont collectionneurs de sous-bocs, de verres, de pancartes, de plaques émaillées. Pourquoi pas les petits camions? Alors, il y a des collectionneurs de petits camions, et c'est original parce que personne dans aucune exposition ne fait une exposition de camions à vendre, de petits camions vendus. Il y en aura à peu près 200 à vendre, tous différents, naturellement.
Alors, allez-y, je vous écoute.
Donc, ce sera intéressant. Moi, je suis moi-même collectionneur de petits camions, j'en ai à peu près 1000, mais donc, il y aura peut-être des nouveaux collectionneurs qui vont s'y intéresser.
D'accord. Il faut de la place, hein. Dites-moi, 1000 camions, quand on fait les poussières, c'est pas rien. Hein.
Dans des vitrines.
Alors, dites-moi, Charles, parlons de cette fameuse bière. Comment peut-on reconnaître une bonne bière d'une mauvaise? Et d'ailleurs, c'est quoi une bonne bière finalement? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, une bonne bière, c'est avant tout un bon moment.
C'est sûr. Mais attention, la meilleure bière qui soit, c'est celle que l'on préfère soi-même. Il ne faut pas se fier à des concours ou tout ça. Et finalement, la bière, il faut la goûter. On l'apprécie ou pas, quelle qu'elle soit. Donc, la meilleure bière, c'est celle qu'on préfère, tout simplement. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Il faut pas écouter tous les consommateurs. Il faut garder son goût à soi, et c'est tout.
Mmh.
Donc, c'est la meilleure bière, finalement, c'est celle qu'on préfère.
D'accord. Alors, dans son ouvrage « La première gorgée de bière », Philippe Delerme écrit « Sur les lèvres déjà, cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée, on la boit tout de suite avec une avidité faussement instinctive. C'est le bien-être immédiat, ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui les vaut, la sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. » Alors Charles Choteau, comment déguster une bière?
Comment déguster une bière? Oh là, c'est très long et très compliqué. Si on veut bien la déguster, il faut jouer beaucoup avec les cinq sens. Il y a même six maintenant, mais on va parler des cinq sens. Par exemple, on déguste avec le toucher d'abord. Donc on touche une bière, on touche le verre de bière dans lequel on a mis la bière, et on sent tout de suite si la bière est suffisamment fraîche ou si elle n'est pas fraîche. Donc, c'est déjà le toucher. Ensuite, si elle est trop froide, on peut la réchauffer en attendant pour la boire. Si elle est tiède ou un peu chaude, il est trop tard pour la rafraîchir. Alors, à nous d'apprécier la bonne température que l'on préfère pour boire une bière. Nous, en tant que professionnels, on goûte toujours une bière à température de la pièce. On perçoit beaucoup mieux les arômes. Alors, on parle rarement de Louis. Louis aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais Louis, il faut écouter quelquefois un peu la bière et on entend le pétillement des petites bulles de gaz carbonique. Et c'est intéressant. Ça ne sert à rien, finalement, mais c'est intéressant d'entendre ça. Ensuite, on a la vue. La vue est importante. On permet, avec la vue, de voir si la bière est bien claire, si elle est trouble, s'il y a des particules qui se baladent dedans, s'il y a des bulles qui s'accrochent au verre. Enfin, on voit la bière. Il faut la regarder. Tous les sens sont indispensables pour goûter la bière. On ne l'a pas encore goûtée, attention. On ne fait que la regarder. Naturellement, en France, on prend beaucoup la couleur en référence. Elle est blanche, elle est blonde, elle est ambrée, elle est brune, elle est noire. Mais la couleur a moins d'importance dans le goût, dans le sens que si on fait une dégustation à l'aveugle, les gens bien souvent disent « Ah, moi, je n'aime pas les brunes ». Ils sont en train de goûter une brune et ils ne s'en rendent même pas compte.
Mm.
Donc la couleur est très susceptible si on la regarde, mais finalement n'a pas beaucoup d'importance. Après, on a quelque chose où on rentre vraiment dans la dégustation, pourquoi on dit, c'est le nez. Le nez est très très important. On aspire tous les arômes, on aspire un bon coup, et après on respire avec chaque narine, on bouche une narine, on respire, on inhale tous les aromates que l'on trouve, et chaque narine a une perception différente. C'est ce qu'il faut faire attention. C'est curieux d'ailleurs, on ne s'en rend pas compte tout de suite, et après on voit qu'on a des arômes différents. Alors, on sent aussi, avec le nez, si la bière a une mauvaise odeur. Il y a des odeurs incompatibles avec la bière. des odeurs de beurre rance, de papier mouillé, de carton, de pommes, de phénol, des odeurs de soufre. Après, quand on a fait cet exercice, on peut passer à la bouche. À la bouche, il y a sur la langue, on attaque, tout de suite on a le sucré. Le sucré, c'est inné, les enfants en naissant ont le sucré. Si on leur met une goutte de bière sur la langue, ils vont faire la grimace. Ils ne sont pas habitués à l'amer, à l'acide, tout ça. C'est le sucré. Tout le monde a le sucré en naissant. Sur les côtés de la langue, de chaque côté, il y a le salé. Dans la bière, il n'y a pas de sel. Donc, on ne le perçoit pas. Après, on a l'amertume dans le fond de la langue, l'acide avant, sur la langue, sur les côtés aussi. Et dans le fond de la bouche, on a l'amertume. C'est pour ça que dans une bière, on ne la crache pas comme le vin. Le vin, il n'y a pas d'amertume. Donc, le vin, on le recrache. La bière, on ne la recrache pas, il faut absolument la boire pour avoir l'amertume dans le fond de la gorge et cette amertume qui dure plus ou moins longtemps. C'est le houblon qui donne l'amertume et on compte en secondes la durée de cette amertume, cette post-amertume, si on veut, après. Voilà, mais toujours dans les dégustations de bière, il ne faut surtout pas écouter le voisin, garder son impression, être bien net dans ses impressions et les garder. Ses impressions, c'est toujours les bonnes. Voilà.
Mais alors, Charles, je reviens quand même sur ce que vous m'avez dit en tout début. Vous m'avez dit une bière se boit à température ambiante. C'est bien ce que vous m'avez dit. Or, température ambiante, quand il fait 20 dans la pièce, ça me paraît un petit peu...
Oui, bon, on peut dire température ambiante à 12-14 degrés. Bon, les bières, mais attention, en dégustation aussi, si on veut déguster autrement, non pas en tant que professionnel, mais en tant que consommateur, il est bon, par exemple, de déguster des bières légères, des bières blondes légères, type Pils, à une température plus basse, c'est-à-dire vers les 5-6 degrés. Plus le degré de la bière augmente, plus on boira la bière à température, on se rapprochera de la température de 12 ou 14 degrés. Une barley wine, ce qu'on appelle vin d'or, et à 12 degrés, par exemple, ça existe, il faut la boire dans les 12 degrés de température également. Voilà. On apprécie mieux une bière forte, très froide, on perd tous les arômes, on perd tout ce que contient la bière, on ne sent rien du tout. On a la bouche anesthésiée par le froid et on ne goûte rien du tout.
D'accord. Mais finalement, avec tout ce que vous nous dites, finalement, enfin personnellement, bon, puisque je découvre qu'une bière se boit presque comme un vin, se savoure presque comme un vin.
C'est un peu différent. On n'a pas tout à fait les mêmes perceptions que le vin, mais ça ressemble beaucoup, la dégustation se ressemble beaucoup. Il faut dans la pièce, il ne faut pas de fleurs, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas se laver les dents avant, par exemple. Il ne faut pas manger de chewing-gum. Il ne doit pas y avoir d'odeur de cuisine. Ou, par exemple, qui arrive souvent malgré tout, beaucoup de femmes viennent en dégustation et se sont parfumées. Alors là, ça détruit toute la dégustation.
D'accord.
Donc, il y a tout des choses à faire attention. Pour faire une dégustation... très strict.
Il faut la boire dans un couvent, quoi.
Les murs doivent être blancs.
C'est ce que je disais, dans un couvent. Alors dites, Charles Chouteau, la bière artisanale est un produit de qualité qui a été réalisé avec soin, donc elle mérite toute l'attention du service. Alors dites-moi justement, comment servir une bière? Le verre d'abord, je suppose qu'il a beaucoup d'importance, vous en avez parlé déjà.
Mais le verre a beaucoup d'importance. Bon, les verres, c'est un désir du brasseur de bien présenter sa bière. La bière, c'est une belle fille qu'il faut bien habiller. Donc, le verre a de l'importance. Mais le brasseur choisit le verre en comparaison de la bière. Une trappiste, une trappiste ne prendra pas le même verre qu'une pils. Une pils, c'est un verre flûte assez allongé, et se boit très bien. Si on met une trappiste dedans, on n'aura que de la mousse. Le contraire, si on met une bière pils, de type pils, dans un verre de chimée qui est très évasé, on n'aura pas de mousse. On n'aura pas de mousse du tout. Donc, voilà la différence. Le verre est calculé par le brasseur pour rendre sa bière formidable, parfaite, moussante et tout. Mais aussi, naturellement, les consommateurs ne peuvent pas avoir une cave à bière et en même temps un buffet à verre avec tous les verres correspondant à chaque bière. C'est difficile. Bon, si on ne peut pas faire ça, si on n'est pas collectionneur et si on n'a pas de place et les moyens d'acheter tous les verres possibles, un verre ballon, très ventru, un verre à pied, ballon, avec ventru à la base et resserré dans le col. Resserré pour justement retenir la mousse et retenir les arômes pour ne pas les laisser échapper trop vite. Et c'est le verre idéal. Maintenant, il y a le verre. Le verre, il faut faire attention. Le verre, il faut pas le maltraiter, il faut pas le mettre au lave-vaisselle, surtout pas, parce que il y a des tas de café, il y a du marc de café qui est gras, et ça graisse les verres. Au lave-vaisselle, et les produits vaisselle sont pleins de paraffine et ont une odeur bien souvent de citron. Ça sent bon, le verre est magnifique, il est recouvert d'une couche de paraffine, on ne voit pas. C'est bon aussi pour le verre à main d'ailleurs. Et le verre doit être nettoyé à la main. À la main, mais avec un produit adapté. Il y a des produits adaptés professionnels avec un pH neutre et qui dégraissent parfaitement les verres, mais qui ne donnent aucune odeur. Il n'y a pas de paraffine dedans. Et le rincer, le verre, le rincer à l'eau fraîche avant de servir la bière. Bien l'égoutter, mais ne surtout pas l'essuyer. Il ne faut pas l'essuyer parce qu'on met des petites luches de torchons dans le verre qui sont microscopiques, mais ça a une influence sur la bière, une influence néfaste. Donc, rincez le verre avant de servir à l'eau fraîche, égouttez-le un peu et vous verrez, votre bière sera parfaite. Une mousse parfaite, pas de bulle sur les côtés du verre.
Et alors justement, Charles Choteau, vous parlez de la mousse. Alors de la mousse, bien sûr, il y en faut. Et pourquoi y a-t-il de la mousse sur la bière?
Bon, là, c'est une réaction naturellement de la fermentation. La fermentation donnera de l'alcool et de l'effervescence, de la mousse. Bon, après, la mousse, c'est nécessaire. Certaines personnes demandent sans mousse. Bon, chacun a son goût. Mais ce n'est pas bien dans le sens où la mousse est nécessaire. La bière, c'est un obstacle à l'air. L'ennemi de la bière, c'est l'air et la lumière. C'est comme ça qu'on voit les bouteilles de bière marron, souvent, ouvertes. Mais si elles sont transparentes, c'est très néfaste. Les rayons ultraviolets détruisent les effets du houblon et tout. Et l'air oxyde la bière. Donc, quand une bière n'a pas de mousse, l'air attaque directement la bière et oxyde la bière. La bière sera bien, elle sera pas parfaite, elle sera pas bonne. Donc voilà.
Et alors justement, Charles Choteau, d'après ce que vous dites, il ne faut pas acheter de bière dans des bouteilles transparentes.
Ah, il vaut mieux. C'est une fantaisie avec laquelle la brasserie Corona au Mexique a démarré en 1920. Ça dure depuis 1920. Bon, c'est une bière exotique, un peu qu'on boit à travers un citron. Le citron est dans le goulot, on verse la bière dessus, mais en même temps, on prend du sel qu'on met dans le creux entre le pouce et l'index. C'est là l'endroit le plus odorant de la main. Et on suce ce sel et on boit ça. Bon, c'est de l'exotisme. Bon, il y a une catégorie de personnes qui aiment ça. Donc, bon, tous les goûts sont dans la nature, on ne peut pas l'empêcher. Mais enfin, c'est une erreur. C'est un peu l'éléphant blanc dans la bière.
Et dites-moi, Charles, comment peut-on... vous pouvez peut-être nous dire comment conserver de la bière?
Alors, conserver de la bière... Ben, il vaut mieux le conserver dans une cave. Dans les caves, il fait entre 12 et 14 degrés. Les conserver debout debout pour pas, parce que s'il y a de la levure dedans, si, maintenant beaucoup de petits brasseurs laissent les levures en suspension dans les bières. On remarque les bières sont troubles et quelquefois il y a de la lie, un peu comme le vin, il y a de la lie qui dépose, de la levure qui dépose au fond. Donc en la mettant debout, ça permet de laisser la lie, si on veut, au fond de la bouteille. Si on les mettait couchés, on les redresse, on mélange tout et on a toute la levure qui reste présente et tout ça. Mmh. Donc, il vaut mieux mettre les bouteilles debout, mais dans l'obscurité. Le frigo marche très bien aussi dans le bac à légumes. Je sais pas pourquoi on appelle ça le bac à légumes, parce que c'est plutôt un bac à bière. On peut mettre la bière en bas du frigo, elle sera très bien aussi, elle sera tout le temps à la fraîcheur.
Mmh. Alors Charles Choteau, on rappelle le rendez-vous, donc ça se passe salle Mendès France, rue du Congo à Neuilly-les-Mines, ce samedi 18 mai, il y aura des brasseurs artisans, un brassin public, des dégustations, des modèles réduits comme vous l'avez dit, des petits camions, une petite restauration, l'entrée de 7 €, et puis ça bien sûr c'est au profit des œuvres du Rotary, pour évidemment on connaît les œuvres du Rotary, c'est pour aider les autres. Alors, avant de se séparer très très vite, Charles, dites-moi, une dernière question, il y a peut-être une bière qui convient mieux aux femmes, non?
Alors, les bières qui conviennent, bon, les brasseurs belges, surtout, ont inventé, il y a entre 30 et 40 ans, des bières assorties de fruits, de framboises, de pêches, pour les jeunes et les femmes. Effectivement, ça a marché. Ça a marché parce que les bières... Ah non, pas de bière. Mais, il y a un fruit dedans. On va goûter. Et les femmes et les jeunes ont apprécié. Ça les a amenés progressivement à la bière. Maintenant, la bière est unisexe. tout le monde en boit. Tout le monde en boit. C'est formidable l'évolution. Parce que il y a eu les blanches aussi, des anciennes bières qui sont revenues à la mode, qui étaient légères. Les femmes appréciaient aussi. Mais maintenant, les femmes boivent de la bière comme les hommes, des bières fortes, elles apprécient aussi. Donc, il n'y a plus de barrière entre les femmes et les hommes.
Très bien, bien. Charles Choteau, merci. Et puis donc, samedi 18 mai à Neuilly-les-Mines, salle Mendès France, rue du Congo à Neuilly-les-Mines. Charles, merci.
À ne pas manquer. Merci, Marie.
Merci à vous.
C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien. Le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin.
Eh bien donc, rendez-vous est pris samedi prochain à Neuilly-les-Mines. Et puis rendez-vous aussi la semaine prochaine pour une autre édition de L'Air du Temps, à suivre Kaléidoscope avec sa musique et ses chansons pour vous mettre là aussi tous en train. Très très bonne matinée à vous